Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Les gens n'approfondiront pas. Ils ne chercheront pas à savoir ce qui se passe ici, surtout.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. J'aime bien ce mot bouquin, moi je l'utilise tout le temps. Voilà. On va parler principalement de deux livres en fait. Angoisse volume 4, ou plus exactement Angoisse exploration d'une collection volume 4, voilà, qui est paru aux éditions Artus. Et ça, on en parlera avec l'un de ces deux auteurs. Alors, les deux auteurs, c'est Laurent Mantez et Philippe Gontier. Et on a pu s'entretenir autour du livre avec Philippe Gontier. Et puis, on parlera aussi BD. On parlera BD avec Survivre à un parent toxique et violent qui est paru chez TM Éditions. Et on en parlera de cette BD avec tous ses auteurs, hein, c'est-à-dire Karine Bahanag, Caron Badramé et Nadé, qu'on pourra également écouter donc au micro de Culture Prohibé. L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer lecture, je suis aujourd'hui accompagné de mon fidèle acolyte Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, et bien évidemment, salut à toutes. Et moi aussi, j'aime bien le mot bouquin.
Eh bien, parlons bouquin, alors, donc avec ce qui vient mettre un point final à l'exploration d'une collection Fleuve Noir. Cette collection, c'est la collection Angoisse. Vous savez qu'Artus, Artus Film, Artus Édition, voilà. Là, c'est marqué Artus Édition sur les belles couvertures de ces ouvrages, couvertures qui reproduisent les visuels d'époque de ces collections Fleuve Noir. Et donc là, Artus, après nous avoir parlé entre autres de la Brigandine, par exemple, là, nous fait la collection Gore aussi, hein, parce que la première publication sur la collection Gore, c'était chez Artus avant qu'il y ait une version augmentée qui paraît chez Faute de Frappe. Et il se trouve que là, Artus nous donne à lire le quatrième et dernier volume de Angoisse, exploration d'une collection, alors signé Laurent Mantez et Philippe Gontier. On continue à explorer cette collection là sous toutes ses facettes, y compris les adaptations en BD, les adaptations au ciné, tout ça, enfin bref. Et pour le théâtre du Grand Guignol aussi. Enfin, vous allez voir, vous allez surtout entendre. On va en discuter tout de suite avec Philippe Gontier, qui est donc co-auteur du livre avec Laurent Mantez. Je rappelle le titre, Angoisse, exploration d'une collection, volume 4. C'est disponible aux éditions Artus. Et de suite, Philippe Gontier au micro de Culture Prohibée.
Alors la collection Angoisse, c'est une collection publiée par le Fleuve Noir entre 1954 et 1974, donc sur une période de 20 ans tout rond. Et qui publiait des romans fantastiques pour la majorité, mais pas que, aussi de science-fiction et des thrillers aussi, des thrillers un peu avec une ambiance fantastique. Le fantastique, c'était à peu près, on va dire, 60%, la science-fiction 20%, le thriller 15%, et puis le reste, c'était un peu des choses un peu hybrides, quoi. Voilà, il y a eu, Il y a eu donc 261 romans. Alors il y a 37 auteurs qui ont écrit dans cette collection sous leur nom ou sous, le plus souvent sous pseudonyme.
Oui, c'est une collection qui a marqué aussi, mais on y reviendra tout à l'heure par rapport à ce volume 4 pour ses couvertures aussi, hein, qui étaient...
Oui, bien sûr, les couvertures dues à Michel Gourdon, comme les couvertures de la collection spéciale police ou espionnage du Fleuve Noir.
Et alors, nous, on a effectivement souligné les sorties de chaque volume. Je pense que vous êtes venus, Laurent Mantez et toi, Philippe Gontier, donc quasiment à chaque parution de volume depuis 2022. Je me rappelle qu'à la sortie du volume 1, vous évoquiez 5 ans de travail. Bon, je suppose que depuis, vous avez redécouvert des choses, retravaillé le sujet. Au final, c'est combien de temps de travail pour produire une telle somme de 4 volumes ?
Alors, le projet, il a été initié en fait à l'été 2014. Donc, ça fera bientôt 12 ans. Donc, il y a eu toute une phase de travail pour rédiger les deux premiers volumes qui sont sortis en 2021. Donc, ça, déjà, ça a pris pratiquement 7 ans. Et puis ensuite, il y a eu le volume 3 qui est paru en 2023 et le volume 4 qui est sorti donc l'année dernière. Donc en tout, le projet il s'est étalé sur 12 ans, quoi. Enfin, sur 11 ans.
Et durant ces 11 années, est-ce que il y a certains mystères qui entouraient cette collection que les co-auteurs et toi avez réussi à percer, parce que là je vois dans ce volume 4, il y a un Adinda et Errata qui est beaucoup centré sur les alias des auteurs. C'était quand même c'était digne d'un travail d'enquêteur, quoi. C'était compliqué, quoi.
Oui, oui, parce qu'il y avait des interrogations. Il y a des auteurs sous pseudo dont on ne connaissait pas l'identité réelle. Et donc, il a fallu chercher. Alors, on a eu de l'aide, notamment de la part de Mathieu Le Tourneux, qui a pu lui se déplacer aux éditions Fleuve Noir, qui a pu consulter des archives, ce qui est très compliqué. Et donc, il a pu nous confirmer au moins 2 pseudonymes. Enfin, même pas nous les confirmer, nous les révéler. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un auteur dont on ne connaît pas l'identité.
Il y avait aussi une sorte de légende autour de cette collection, comme quoi Frédéric Dard aurait écrit dedans. D'ailleurs, je crois que c'était dans le précédent volume.
Oui, oui, bien sûr. Alors Frédéric Dard, il y a des gens qui le voient un peu partout. À les en croire, il lui aurait fallu 5 vies pour écrire tout ce qu'on lui prête. Maintenant, c'est à peu près, c'est même clair, c'est fixé, parce que il y a eu un gros travail de François Rivière qui a travaillé avec la famille, donc on connaît les pseudos. Après, sur la collection Angoisse, on reconnaît nous-mêmes qu'il est possible qu'ils soient intervenus sur certains titres. Parce que c'était le gendre d'Armand de Carreau, donc qui dirigeait les éditions du Fleuve Noir. Il était un peu chargé de trouver des auteurs aussi. Donc il a ramené comme ça plusieurs auteurs dans l'écurie du Fleuve Noir et notamment d'Angoisse. Et peut-être qu'il a eu un travail de relecture et peut-être aussi il a apporté sa patte sur quelques romans. Ça se sent parce que on a sur certains titres des ruptures de style qui sont vraiment flagrantes. On passe d'un style, on va dire, classique à du dard pur. Donc on pense qu'effectivement, mais il n'en a pas écrit entièrement.
Oui, il n'a pas écrit un livre complet de la collection. Non. Voilà, il est intervenu, une sorte de script doctor, pour employer un anglicisme. Et du coup, oui. Alors quel auteur a échappé à la sagacité de Laurent Mantez et toi-même, Philippe Gontier, pour cette collection Angoisse ?
Alors c'est un auteur qui s'appelle Franck Puig. Alors Franck avec un C. Puig, donc c'est un peu une consonance, espagnole ou basque, quelque chose comme ça. Et là, on n'a pas réussi à trouver qui c'était. Et en fait, le seul moyen de le savoir, ça serait d'aller consulter le contrat d'édition, mais ce qu'on n'a pas pu faire. Mais ça laisse la place comme ça à d'autres enquêteurs pour trouver l'identité de cet auteur. Alors on sait que c'est pas Dard, parce que moi j'ai un exemplaire dédicacé, et donc c'est pas du tout l'écriture de Frédéric Dard, mais on ne sait pas qui c'est.
Le mystère persiste. Alors, parmi les enquêteurs, vous avez plein de co-auteurs aussi qui ont travaillé, en particulier sur ce volume 4. Et il y a pas mal de dossiers dans ce volume 4 qui sont assez passionnants. Il y a par exemple les adaptations en BD des écrits de Kurt Steiner, Marc Agapi et André Karoff, qui ont été publiés entre 68 et 83 par les éditions Haredi, anciennement Artima. C'est là qu'on découvre qu'il n'y avait pas que des comics en fait, qui étaient publiés par cet éditeur. Et il y avait donc Atomos, moi je me rappelle d'Atomos, je ne savais pas quand j'étais gamin que c'était en fait adapté d'André Karoff, avec la Madame Atomos d'André Karoff. Il y a des histoires dans Eclipso, Flash Espionnage, Névrose, Clameur. En fait, il y a énormément de BD adaptées de la collection Angoisse au final.
Ah oui. Alors je ne sais plus exactement le titre, je l'ai indiqué, mais c'est plus d'une centaine de titres, oui, qui ont été adaptés. Même de mémoire, plus de 150, je pense. Alors ça, c'était parce qu'il y a eu le Fleuve Noir avait été racheté par les presses de la Cité, qui ont, je crois, aussi racheté Haredit, ce qui fait que ils ont décidé d'exploiter le catalogue du Fleuve Noir pour alimenter ces collections de BD.
Alors, on en apprend bien plus, hein, il faut lire le livre, on ne va pas tout dévoiler
on pourrait presque faire un volume que sur les adaptations BD, parce que là c'est pareil, on ne connaît pas le nom de la plupart des dessinateurs. Là, beaucoup sont des dessinateurs espagnols. Alors la qualité, c'est ce qu'on dit, est pas toujours au rendez-vous. Mais c'est des auteurs qui étaient payés vraiment presque rien, et donc on comprend qu'ils n'avaient pas le temps de passer des heures sur une planche. Mais il y aurait tout un travail à faire pour identifier ces dessinateurs.
Oui, parce que d'autant plus que là, c'est ton dossier en plus, hein, parce qu'il y a plusieurs contributeurs, mais celui-ci, c'est vraiment toi qui l'a rédigé. Et alors, effectivement, j'invite tous les lectrices et lecteurs, tous nos auditrices et auditeurs, à se jeter dessus, parce qu'il y a vraiment un détail qui est fait de toute la collection. Il y a des reproductions de pages, il y a quelques couvertures, ou d'ailleurs, c'est rigolo, parce que certaines couvertures sont dessinées par Carlo Iacono, qui est aussi un illustrateur de légende, de couverture, en Italie, mais qui a aussi sévi en France. Donc c'est assez rigolo. On pourra faire un petit parallèle tout à l'heure, on en reparlera avec Michel Gourdon, on y reviendra, puisque dans ce volume 4, il est grandement question aussi de Michel Gourdon. Mais si les auteurs de la collection Angoisse ont été énormément adaptés en bande dessinée, on ne peut pas en dire autant d'autres médias. Alors par exemple, il y a toute une partie qui est consacrée aux adaptations cinématographiques. Et alors c'est Vincent Roussel qui en parle là, mais Les yeux sans visage, par exemple, de Jean Redon, qui sont adaptés par Georges Franju, hein, le film est devenu un classique, où quand même Franju, il a un peu peur. Il enlève la nécrophilie quand même de son film. Et puis, il y a Le seuil du vide, on va en reparler après, mais de Jean-François David après Kurt Steiner. Mais quand même, Les yeux sans visage, c'est étonnant que ça n'ait pas entraîné plus d'adaptations que ça, parce que Les yeux sans visage, c'est devenu un film culte. C'est expliqué dans le bouquin, il y a plein de sous-yeux sans visage, en fait, de succès d'années, des yeux sans visage. En particulier, Jésus Franco, il a beaucoup aimé, je pense, Les yeux sans visage. C'est assez étonnant de voir que, en fin de compte, la collection a plutôt peu inspiré les metteurs en scène français ou même étrangers d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on est très surpris. Alors après, ça peut s'expliquer parce que déjà le cinéma français, il est pas, on va dire, il est pas féru de fantastique quand même. Si on cherche les titres entre les années 30 et les années 60 de films fantastiques en France, il y en a quand même pas beaucoup. Comparé à l'Angleterre, aux États-Unis, à l'Italie. Donc déjà, il n'y a pas une appétence, je pense, du milieu. Et alors après, il y a eu l'arrivée de la nouvelle vague qui a un peu tué le cinéma populaire français. Et là, du coup, ça a été un coup d'arrêt net aux possibilités qu'il y ait eu de voir des films adaptés de ces romans. Donc voilà, mais c'est dommage. Ça aurait pu même donner lieu à des séries. Pour certaines, puisque dans la collection Angoisse, il y a des sagas, notamment Madame Atomos. Et je sais pas, on aurait pu rêver d'avoir une série Madame Atomos, un peu sur le modèle des chapeaux blonds et bottes de cuir ou quelque chose comme ça. Mais ça s'est pas fait.
Oui, après, il y a aussi Le Seuil du vide, on en parlait un instant, d'après Kurt Steiner, de Jean-François Davy. Alors, c'est un film quand même qui jouit d'un certain culte. Hein. Moi, j'avoue que c'est un film que je trouve intéressant. Vincent Roussel est mesuré sur le film. Erwan Le Gac, qui participe aussi à ce volume 4 d'Angoisse, lui, il a été rencontré, Jean-François Davy. Et on découvre quand même que Davy, lui, il est vraiment passionné par le bouquin. Enfin, c'est un vrai choix, quoi, d'adapter ce bouquin.
Ah oui, bien sûr. Lui, il a eu vraiment très envie d'adapter ce roman. Après, le résultat, il est ce qu'il est, compte tenu aussi des moyens dont il disposait. Alors moi, honnêtement, pour être tout à fait franc, le film, je ne l'ai pas vu parce qu'il est très difficile à trouver. Donc moi, bien sûr, j'ai vu Les yeux sans visage X fois, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que j'ai fait appel à d'autres personnes pour rédiger cette partie cinéma.
Erwan Le Gac, donc on en parlait à l'instant, qui a été rencontré Jean-François Davy, et puis qui, pour ce volume 4 de Angoisse, exploration d'une collection disponible chez Artus Film, qui donc pour ce volume 4, Philippe Gontier, a aussi été recherché les adaptations théâtrales. Alors là, il n'y en a que deux, mais là, c'est plus surprenant, et c'est vrai qu'il ne me serait pas venu à l'esprit, mais en même temps, c'est logique, qu'il y avait un théâtre du Grand Guignol, et que donc, tout fort logiquement, on a retrouvé cette appétence pour des livres de la collection Angoisse. Alors, il y a Parodie à la mort d'après Peter Randa. Et puis, bon, il n'y en a que deux, attention. Hein. Et surtout, il y a encore une fois Les yeux sans visage d'après Jean Redon. Là, c'est pareil, malgré tout, le Grand Guignol s'en est emparé, mais pas tant que ça. Bon, après, c'est peut-être aussi une question de timing, là, je pense.
Oui, parce que en fait, c'était la fin du Grand Guignol. Hein. Alors, le Grand Guignol, il y a eu d'autres romans adaptés de romans, notamment par Robert Hossein et Frédéric Dard, qui ont travaillé pour le Grand Guignol. Mais sur la collection Angoisse, il y a eu que ces deux titres, mais c'était vraiment la fin du Grand Guignol. Donc, peut-être que si le Grand Guignol avait perduré, il y aurait peut-être eu d'autres romans adaptés. Mais là, le timing, effectivement, n'était pas terrible.
Après, il y a aussi, moi, ce que j'aime bien dans le livre, il y a un petit aparté, on peut dire ça, de Michel Bellaton, dans l'atelier de Michel Gourdon. Quand même, c'est des grands artistes qu'on redécouvre aujourd'hui, ces artisans de l'affiche, de l'illustration. Pourrais-tu nous en dire on en a déjà parlé hein, quand on a parlé des précédents volumes, mais peut-être rappeler un peu à nos auditrices et auditeurs quel artiste c'était, parce que franchement, les livres de la collection Angoisse, même si on peut les collectionner que pour les couvertures sans les lire, bon, ce serait une erreur, mais quand même, on peut les collectionner que pour les couvertures.
Oui, tout à fait. Alors, Michel Gourdon, c'est quelqu'un qui rêvait de devenir artiste, peut-être peintre d'ailleurs. Je pense que c'était un peu une ambition, déjà la peinture à l'époque c'était plus compliqué. Donc, il a fait l'école des beaux-arts de Bordeaux. Et puis après, il a cherché un peu à vivre de son art et il s'est retrouvé à travailler pour le Fleuve Noir. Et une chose en entraînant une autre, il est devenu l'un des deux illustrateurs attitrés du Fleuve Noir, l'autre étant Branton pour la collection de science-fiction, la collection Anticipation. Et lui, il s'est chargé de la collection spéciale Police, Espionnage, Angoisse, les grands romans. Sa production, on n'arrive même pas à concevoir comment il a pu faire toutes ces couvertures, quoi, tellement c'est énorme en termes de volume. Donc il avait, je pense, une rapidité d'exécution et une puissance de travail un peu hors du commun, parce que c'est vraiment considérable.
Oui, alors c'est un peu les mêmes questions. Tout à l'heure, on parlait de Carlo Iacono. Enfin, on peut se poser des questions, quoi. Enfin, parfois, on repère que ces auteurs-là, ils ont un truc... un style et on repère le même style. Ils reprennent des personnages, des poses identiques qui modifient un petit peu. Enfin, ça se repère forcément.
Ils travaillaient beaucoup d'après photo aussi. Mm-hmm. Donc, je pense travailler d'après photo, peut-être avec des projections, avec un rétroprojecteur. Mais enfin, j'ai la chance de posséder deux originaux de Gourdon et il y a vraiment une finesse d'exécution qui est proprement incroyable, quoi. C'est précis, c'est fin, les traits de pinceau. Donc il y a quand même un travail, un travail de peintre qui est incroyable.
Alors, après, dans ce volume-là, vous êtes plusieurs à avoir travaillé aussi sur une des particularités de cette collection, qui n'était pas si fréquent que ça, en fait, qu'il y ait des héroïnes du mal, comme ça, qui soient récurrentes dans des collections liées à l'angoisse, même dans au global, les collections liées au fleuve noir, où il y avait plutôt des héros masculins que des héros féminins. Alors là, c'est des héroïnes du mal, voilà. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ce sont des héroïnes qui incarnent chacun quelque part. Il y a Madame Atomos qui est un peu une illustration du péril jaune. Il y a Mephista qui va être un peu une entité maléfique, mais sexy, évidemment. Et puis une détective de l'étrange. Là, on est plus côté, on en parlait tout à l'heure, The Avengers, chapeau melon, bottes de cuir et tout ça, Diana Rigg, avec Rosamund Lou. C'est vraiment une des particularités de cette collection d'avoir mis en avant aussi des personnages féminins.
Oui, je crois, parce que si on prend les collections, notamment par exemple la collection espionnage, c'est presque exclusivement masculin. La collection spéciale police, il y a aussi des femmes, mais c'est rare. Mais là, il y a vraiment effectivement une volonté de mettre en avant des héroïnes féminines. Alors je pense que c'était aussi lié au côté un peu sexy. C'était pour mettre un peu des personnages un peu sexy en avant.
Il fallait appâter le chaland.
Alors la plus remarquable, à mon sens, c'est quand même Madame Atomos, parce que c'est vraiment ça, pour le coup, c'est quelque chose qui aurait pu donner lieu à des films un peu dans l'esprit des Fantomas de Hunebelle ou du Diabolique de Mario Bava. Enfin voilà, c'est ce genre de film. On aurait pu faire quelque chose de vraiment formidable avec cette héroïne.
Oui, c'est un peu une Fu Manchu au féminin, quoi, quelque part.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais avec tout le côté, là où c'est fort, c'est d'avoir utilisé un peu le... Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est une rescapée d'Hiroshima, donc une scientifique surdouée, et qui décide de se venger des États-Unis et de l'Occident en général pour justement Hiroshima et Nagasaki. Et donc ça joue aussi sur le... Alors ça joue sur la peur de l'atome, bien sûr, mais sur le sentiment aussi de culpabilité de tout l'Occident par rapport à Hiroshima.
La collection Angoisse a également vu quelques-uns de ses titres traduits à l'étranger, publiés à l'étranger. Dans quel pays il y a une plus grande appétence? On en parle aussi dans le volume 4, évidemment, hein, de Angoisse, exploration d'une collection disponible chez Artus. Dans quel pays il y a une plus grande appétence pour les textes de la collection Angoisse?
Alors là, pour le livre, moi je me suis surtout... comment dire, j'ai choisi les traductions en fonction des couvertures, parce que je trouvais qu'il y avait des couvertures étrangères qui étaient belles, qui étaient attirantes et qu'il fallait montrer. Donc je ne connais pas l'intégralité des traductions qui ont été faites des romans Angoisse dans le monde, parce que notre travail il n'est pas du tout exhaustif. Donc là, en termes de volume par rapport à ce qu'on a voulu mettre en avant, je dirais que c'est l'Allemagne là qui a la collection avec le plus grand nombre de titres. Après, il y a eu une collection au Brésil, une collection en Espagne, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres traductions dans d'autres pays que nous, on n'a pas pu mettre en avant, parce que c'est pareil, ça pourrait presque donner lieu à un livre en soi, les traductions des romans Angoisse à l'étranger.
C'est vrai. D'ailleurs le titre de ce dossier s'appelle « Deux quelques éditions étrangères des romans de la collection Angoisse ».
Voilà. Absolument. Et voilà, j'ai voulu mettre en avant celles qui avaient des couvertures un peu des couvertures pop, quoi, des couvertures dans l'esprit des pulps.
On est d'accord, hein, moi je trouve qu'il y a des... J'aime beaucoup la collection Vampire Horror Roman, par exemple. Mmh. Je les trouve super belles, là, les couvertures. C'est,
ah oui, oui, oui.
C'est super beau. Parce qu'on ne le dit pas depuis le début, mais c'est des bouquins super bien illustrés. Il y a énormément. De toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement, tous les auteurs, là, que d'avoir un livre sur la collection Angoisse abondamment illustré. Parce que c'est aussi ça qui compte, c'est l'esthétique de cette collection. Quoi. C'est...
Bien sûr, bien sûr. Il y a toute une imagerie. Alors autour de la collection Angoisse, mais autour du fantastique en général. Et donc c'était important de montrer ça. C'est comme, on ne peut pas parler des pulps américains, des revues comme Weird Tales, enfin tous les pulps qu'il y a eu, les dime novels, etc., sans montrer les couvertures, parce que c'est indissociable.
D'après toi, quel héritage laisse cette collection Angoisse, qui est quand même parue sur plusieurs dizaines d'années? Alors dans le bouquin... Il y a la collection Frayeur qui est abordée, parce que aussi Michel Gourdon a illustré le numéro 1, mais elle a fait des petits, cette collection Angoisse, elle a vraiment marqué quand même.
Alors, elle a marqué, je pense qu'elle a influencé beaucoup d'auteurs qui l'ont lu à l'époque. Alors après, il y a une autre collection qui a été importante après, mais qui ne se situe pas exactement dans le même registre, c'est la collection Marabout. Qui est né pratiquement au moment où la collection Angoisse s'arrête. Donc il n'y a pas eu vraiment d'arrêt complet du fantastique dans la littérature, dans l'édition de masse, on va dire. Donc tout ça, c'est une continuité. Et puis après, il y a des auteurs qui sont... que ça a suscité des vocations, mais il n'y a pas une héritière... on va dire, de la collection Angoisse en tant que telle. Elle a contribué à l'émergence d'un fantastique français qui s'est continué après. Alors, Marabout, c'est plus belge, mais il y a aussi des auteurs français, mais c'est plus belge. Mais tout ça, je pense que tous les auteurs, les Brussolos, sont des gens qui ont été influencés, je pense, par la collection Angoisse et la collection Marabout. Donc, cette collection, oui, elle a donné une appétence à des auteurs pour le fantastique.
Que fais-tu en ce moment? Quels sont tes... est-ce que tu as des choses sur le feu? Tu as des projets afin de conclure cet entretien et puis d'amener aussi nos auditrices et auditeurs vers le reste de ton travail, puisque tu ne t'es pas attelé qu'à décortiquer la collection Angoisse.
Oui, alors, le travail sur la collection Angoisse, Laurent et moi, on n'a pas travaillé exclusivement sur la collection Angoisse pendant toutes ces années. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a mené parallèlement. C'était un travail de commande au départ, la collection Angoisse, un travail de commande des éditions Artus, de Thierry Lopez qui dirige Artus, qui est avant tout un éditeur de DVD, de films. Mais donc on s'est lancé dans ce travail à sa demande, mais on avait, nous, des choses personnelles. Moi, notamment, j'écris des nouvelles, j'écris des articles sur des auteurs, parce que j'aime beaucoup la science-fiction ancienne, ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. Donc j'ai publié des articles dans des revues comme Le Rocambole ou dans des anthologies ou comme Dimension scientifique, Dimension merveilleux scientifique, pardon. J'ai publié un recueil de nouvelles, j'ai publié des anthologies, et depuis 2017, je m'occupe des éditions La Clé d'Argent avec Jean-Pierre Favard. Donc, ça s'est fait, ça, en même temps que d'autres choses. C'est pour ça aussi que ça a été long. Si on avait fait que ça, je pense qu'on aurait pu aller plus vite, mais voilà, ça s'est fait en même temps que d'autres choses. Moi, actuellement, je continue à m'occuper des éditions La Clé d'Argent. Là, je vais sortir une anthologie sur le thème des savants fous, donc un recueil de 13 nouvelles d'auteurs différents. Il y en a une que j'ai écrite dedans. Je prépare deux recueils de nouvelles fantastiques personnelles. Donc il y a les éditions de La Clé d'Argent, c'est faire des salons, c'est faire plein de choses, c'est s'occuper de la gestion, etc. Donc tout ça c'est fait en même temps. Et si je peux juste ajouter une chose pour parler de Laurent qui est malheureusement absent aujourd'hui, c'est que Laurent c'est dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'il a écrit des romans en même temps qu'il travaillait sur la collection Angoisse, et il faut citer son dernier roman, donc qui est paru chez Albin Michel et qui est une aventure de Conan, un Conan vieillissant.
Ça fait très envie. Je vous rappelle donc que Philippe Gontier, que vous venez d'écouter, est le co-auteur avec Laurent Mantès de Angoisse, exploration d'une collection, volume 4, qui est paru aux éditions Artus. Vous pouvez en faire l'acquisition, entre autres, sur le site d'Artus Film, mais aussi, par exemple, sur le site des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, les Films de la Gorgone qui coproduisent donc cette émission que vous écoutez actuellement avec amour, qui s'appelle Culture Prohibée. Puisqu'on parle amour et puisqu'on parle bouquin, eh bien, je vais passer la parole à un homme qui n'est qu'amour. C'est notre ami Thomas Roland. Thomas Roland qui est venu sous le bras avec une bande dessinée.
Oui, une bande dessinée qui s'intitule « Survivre à un parent toxique et violent, 30 astuces et enseignements improbables ». Cette bande dessinée de Karine Bernag au scénario, de Karamba Dramé aux illustrations et de Nadé au concept art s'intéresse à la maltraitance enfantine. Le titre pourrait laisser croire à une BD à l'ambiance lourde, à la tonalité didactique avec une énumération étouffante, mais non, pourtant le mot-clé est « astuce ». Car l'ouvrage se révèle être écrit avec humour. Ce parti pris annihile l'aspect rébarbatif que pourrait en effet prendre cette accumulation de situations découpées en petits chapitres. Ainsi présenté, il y a pourtant bien une intrigue, une linéarité qui prend forme petit à petit. Il s'agit d'une fiction, mais il n'est pas difficile de deviner un côté autobiographique, qui est d'ailleurs avoué dans une postface. La violence dénoncée dans chacun des chapitres est donc constamment désamorcée par l'humour, à un certain sens de l'autodérision. Esthétiquement, cela ressemble à un comics, même format, avec un trait dynamique, mais une mise en scène tout en sobriété. La façon dont est présenté le père participe aussi, lui aussi, à donner une aura presque fantastique, comme s'il était l'incarnation du mal, modèle interchangeable avec d'autres parents, parce qu'il n'est jamais nommé, il est désigné comme PTV, PTV pour parents toxiques et violents. Sans en faire trop, les auteurs arrivent à mettre en avant la solitude et la détresse du personnage principal. Ces choix d'écriture esthétique permettent alors d'explorer avec élégance et sans pathos la question complexe et toujours d'actualité de la maltraitance enfantine, qui est bien plus répandue qu'on ne le croit. Et ce que la BD n'oublie pas de dire, c'est que cela ne touche pas que les couches sociales défavorisées. Ici, il s'agit bien d'un milieu aisé que les clichés veulent voir épargné par ce fléau.
Et tout de suite, Karine Bahanag, Karamba Dramé et Nadé, les co-auteurs donc de Survivre un parent toxique et violent disponible chez TM Édition, au micro de Culture Prohibée.
Karine Bahanag, vous êtes d'abord danseuse et chorégraphe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers la bande dessinée ?
J'écris depuis bien longtemps, pas de façon professionnelle dans un premier temps, mais ensuite après un master en art du spectacle dans lequel j'ai fait des modules d'écriture dramaturgique. J'écrivais pour de la poésie, du théâtre, des romans. Et la bande dessinée, c'est la rencontre avec Ren Dibussy en 2017. Elle me propose, elle me dit « Oui, j'ai vu ce que tu as écrit dans tel contexte. Ça pourrait très bien t'aider, la bande dessinée. » Et là, elle me montre un petit peu comment les spécificités de l'écriture pour la bande dessinée. Et directement, je me prends au jeu, je me lance dans l'aventure. Donc, c'est le début de mon aventure en tant que scénariste pour la bande dessinée.
Alors, au départ, vous dites hein, dans la bande dessinée, vous dites qu'au départ, c'est un texte hein, que vous avez écrit. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de transformer ce texte sous forme de bande dessinée ? Et quelles sont les grandes différences entre les deux ?
C'est un texte que j'ai produit durant un processus d'accompagnement psychologique lié justement aux thématiques abordées. Et sachant que j'étais scénariste à l'époque, ma thérapeute me propose d'écrire, juste écrire ce que j'ai envie d'écrire sur le sujet, sur ce que je ressens. Et là, je pars sur... Ce qui me prend en premier au trip, c'est l'absurdité et le paradoxe qui existent entre l'image que les gens ont de moi, c'est-à-dire une personne hyper fonctionnelle, hyper efficace, hyper... Et moi, ce que je ressens, tout ce que cela implique pour moi d'être comme ça, et comment est-ce que j'en suis arrivée là. Donc, je pars sur l'écriture de quelque chose d'un peu de parodique, des méthodes de développement personnel, et je le montre à ma psy en me disant, voilà, c'était mon défouloir. J'ai mis en lumière quelque chose qui me semblait absurde et paradoxal, mais ça n'avait absolument pas vocation à être publié. Et quand elle le lit, elle me dit, ça peut parler à plein de personnes. Ça vaut peut-être la peine d'envisager de le publier. Et là, je reviens donc sur mon choix, qui me paraît à ce moment-là même un peu douteux, d'employer un ton absurde et faire une parodie de développement personnel. Et là, je me rapproche de 59 personnes pour lire et me donner leur retour. Et je reçois 51 retours de témoignages. Au lieu de me dire ça passe, c'est un ton qui passe, c'est un ton qui est correct, c'est un ton qui est... ou que ça ne passe pas, parce que quand on demande des retours, c'est qu'on s'attend à toutes les réponses qui peuvent arriver concernant la pertinence ou l'efficacité ou voilà. Donc, au lieu de recevoir des informations sur le côté artistique du contenu, est-ce que c'est de bon ton ou pas, est-ce que le scénario est cohérent, est-ce que je reçois plus de témoignages qu'autre chose. Et là, je me dis, bon, effectivement, ça vaut la peine d'aborder ce sujet. Et pour moi, c'était aussi le présenter en bande dessinée, c'était sortir de ma tête à moi. Parce que quand je l'écris en texte, c'est parce que je ne suis pas dessinatrice, je suis autrice de texte. Mais une partie de l'information visuelle qui est présente dans ma mémoire et dans mon expérience complète ce que j'écris. Donc pour rendre ça accessible à des personnes qui ne sont pas dans ma tête, le besoin de compléter le texte par quelque chose de visuel et aussi de plus vivant, d'extérieur à moi aussi, qui sera interprété par une autre personne qui pourra s'approprier le texte et le restituer tel que sa sensibilité le comprend. Pour moi, c'était essentiel aussi pour, d'une part, me détacher de ma vision, mais aussi de compléter l'expérience que j'avais envie de faire transmettre à travers ce projet-là, surtout les questionnements qui sont presque dans la subtilité, dans l'intime du quotidien et qui ne sont pas forcément présentés de cette façon en général. Donc, pour moi, à la fin, décider de passer à la publication ne pouvait se faire qu'à travers quelque chose d'aussi visuel que le roman graphique.
Karine Bahanag, vous êtes la scénariste de Survivre à un parent toxique et violent. Et vous dites avoir reçu 51 témoignages après relecture. Vous privilégiez l'humour. Est-ce que vous êtes censuré? Y a-t-il des choses que vous avez préféré passer sous silence? Et vous dites aussi que ça pouvait parler à beaucoup de personnes. Est-ce que pour cette raison, vous avez fait de l'autocensure?
Alors, je n'ai pas fait de l'autocensure, mais par contre, j'ai fait un choix délibéré de sortir du prisme de la spectacularisation des violences faites aux enfants. En général, quand on dénonce, que ce soit dans des ouvrages, dans le cinéma ou même dans les faits divers, dans les médias, quand on parle de la violence dénonçable ou considérée comme légitimement dénonçable, c'est qu'on a atteint une escalade de la violence physique inimaginable et à travers laquelle on peut, ou bien de laquelle on peut s'éloigner et se dire, ah ben, quelles que soient mes pratiques éducatives, entre guillemets, je tiens à ces guillemets-là, je n'ai jamais atteint ce niveau-là. Donc, je peux considérer que telle personne est une personne pas bien, qui a commis un acte exceptionnel pas bien, et je ne suis pas obligée de me regarder moi en face sur qu'est-ce que je fais à la maison avec mes enfants, ou moi en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte qui a subi des violences, est-ce que ce que j'ai vraiment vécu était correct? Ou alors en tant que témoin qui assiste souvent à des situations banalisées, est-ce que c'est OK? Est-ce que si ce n'avait pas été un enfant subissant de telles pratiques, cela m'aurait choqué ou pas? Donc ça oblige, pour moi la question c'était vraiment de sortir de cette présentation de la violence légitime, dénonçable, pour aller dans le quotidien et la subtilité de comment est-ce que les formes de violence, comprises violence physique, violence psychologique, violence psychique, violence émotionnelle, violence administrative, violence alimentaire, toutes les formes de violence, comment, ce à quoi elles ressemblent au quotidien, aussi très important pour moi ce que ça oblige l'enfant à mobiliser comme charge mentale pour survivre et l'impact durable que ça a sur l'enfant. Et plus important encore, quand on voit donc toute la charge que ça prend, on ne voit pas un enfant heureux, on ne voit pas un enfant épanoui, on ne voit pas un enfant qui vit juste sa vie d'enfant et qui peut juste se sentir en sécurité dans son contexte. Donc ce n'est pas une censure, mais un choix délibéré de changer le regard sur la légitimité que l'on pose sur les violences sur les enfants que l'on considère comme légitimement dénonçables. Et c'était d'autant plus important que là, le retour que j'ai reçu, j'ai eu plein de personnes qui continuent de m'envoyer des témoignages et tout, mais je reçois aussi des personnes qui me disent « Ah, bah, je m'attendais à pire ». Je précise que la toute première anecdote de ce roman graphique, c'est une enfant entre 0 et 6 ans, pour avoir cassé un stylo plume, se retrouve punie de rester sous le lit toute une journée sans manger ni boire. Juste ça, m'entendre certaines personnes me dire que je m'attendais à pire. Ça veut dire qu'en tant que société, à cause de ce traité exceptionnaliste des violences légitimement dénonçables, on a collectivement haussé le taux de tolérance de ce que l'on inflige aux enfants sans que ça ne choque. Donc ce n'était pas une censure, mais un choix délibéré de changer le regard sur les violences que l'on normalise dans les familles et ce que cela coûte aux enfants et aux adultes plus tard.
Karine Bahanag, Karamba Dramé et Nad, vous êtes respectivement scénariste, dessinateur et concept art de Survivre à un parent toxique et violent. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous pris l'initiative, le désir de vous impliquer dans ce projet ?
La première fois qu'on s'est contacté avec Karine, je crois que ça date d'il y a presque 4 ans maintenant. J'avoue que je ne me souviens plus complètement comment ça s'était passé. Mais je me souviens d'un mail qui me présentait le projet et j'ai tout de suite accroché en fait parce que la dénonciation des violences faites aux enfants c'est quelque chose qui me touche énormément et qui faisait partie de mes engagements professionnels également. Et c'est vrai que j'ai lu son projet et ça m'a paru évident que je voulais y participer. Donc au départ, c'est vrai que c'était un engagement entre nous deux que je fasse la bande dessinée. Donc on a complètement conceptualisé et réalisé le dossier pour les maisons d'édition ensemble. Et finalement, il s'est avéré que au moment où c'est devenu justement le moment de la mise en pratique et de vraiment réaliser complètement le projet, j'ai plus été en capacité de le faire et du coup on a passé Karine a rencontré Karamba. Je vous laisserai raconter cette rencontre là, mais c'est vrai que pour moi c'était une expérience assez exceptionnelle parce que c'est à ce moment là Karine aurait pu choisir aussi de ne pas continuer de travailler avec moi puisque de toute façon je ne pouvais pas continuer la bande dessinée. Mais finalement, elle a quand même décidé de me garder impliquée dans ce projet et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je trouve que ça reflète, en fait, cette BD reflète à la fois son engagement pour la dénonciation des violences faites aux enfants et en même temps son engagement pour le respect du travail des artistes. Donc c'est un grand plaisir d'avoir pu participer à ce projet.
Moi, en ce qui me concerne, Karine m'a contacté via les réseaux parce que on avait une connaissance en commun qui est Reine Debussy, encore elle. Et à la base, elle m'avait contacté pour un autre projet et on avait un peu commencé à en discuter. Et l'opportunité de réaliser le projet qui lui était cher est arrivée, elle a préféré du coup le privilégier et me demander si j'étais OK de travailler dessus. À la base, c'est pas exactement le type de projet dans lequel je me projette de base, mais le parti pris m'avait suffisamment interpellé et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ce type d'interprétation pour ce sujet. et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en scène pour ma part, et aussi le fait que avec le trait qui est le mien, j'aurais peut-être quelque chose aussi à apporter de cette interprétation.
Nad, donc vous venez de dire que vous étiez impliqué très tôt sur le projet, mais que vous n'avez pas pu le faire en tant que dessinatrice, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est votre rôle en tant que concept art et en quoi il diffère du travail de Karamba Dramé ?
Alors, en fait, le concept art, c'était aussi... En fait, faire les premiers choix, c'est-à-dire qu'avec Karine, on a pu ensemble complètement conceptualiser ce qu'on voulait projeter comme bande dessinée au niveau visuel. C'est-à-dire qu'on avait les textes, mais il fallait qu'on fasse des choix sur l'apparence des personnages, il fallait qu'on fasse des choix sur les couleurs, sur la façon dont ça allait être mis en page, etc. Alors pour ça, Karine avait déjà beaucoup d'idées et était visualisait déjà des choses. Et en fait, moi, avec mon regard d'artiste, j'ai pu aussi participer à cette réflexion. Donc les choix qu'on a fait, c'était notamment sur le fait de partir sur quelque chose de monochrome. On a choisi ensemble la couleur parce qu'on a fait plusieurs tests. On avait fait des tests sur des couleurs plus violettes, sur des couleurs plus vertes. Et en fait, finalement, c'est vraiment le bleu qui est ressorti. Donc voilà. Et puis ça a été aussi, du coup, de faire les premiers croquis et les premières planches au propre pour pouvoir présenter aux maisons d'édition. Et ça a permis d'avoir une base donc d'art déjà un peu conceptualisé par rapport à la bande dessinée sur laquelle Karamba ensuite a pu se baser pour créer son propre univers avec son trait à lui qui est très identifiable en fait. Et le travail, c'était aussi ensuite par la suite de pouvoir continuer d'accompagner en faisant de la relecture de planches, en faisant de la relecture de planches autant au niveau du texte qu'au niveau du dessin, et de pouvoir de temps en temps donner mon avis et donner des conseils en fait sur comment représenter certains aspects de l'histoire.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin.
Karamba Dramé, donc vous êtes le dessinateur de Survivre à un parent toxique et violent. Quel a été votre rapport par rapport à ce que Karine Bahanag et Nad avaient déjà défini ?
Alors moi, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de redessiner tous les personnages et avec mon trait et voir certains aspects de l'attitude de la fille et dans toutes ces différentes tranches d'âge. Il y avait certaines tranches d'âge qui avaient été déjà définies. Et moi, j'ai dû les redessiner avec mon trait. Et après, on a eu quelques allers-retours pour savoir comment, qu'est-ce qu'il fallait affiner, qu'est-ce qu'il fallait préciser, etc. etc. Donc, on a dû d'abord se mettre d'accord sur le travail de concept art qui avait déjà été fait, et avec mon interprétation en plus.
Karine Bahanag, vous disiez que, enfin Nad vient de dire que vous aviez déjà une idée très précise de ce que vous vouliez faire niveau esthétique. Est-ce qu'il y a une influence particulière ? Parce que quand on lit la BD, moi je pense beaucoup, ça fait très comics en fait.
Alors, je ne dirais pas forcément une influence comics, mais plutôt une influence plus dans le ressenti que j'ai voulu renvoyer en représentation visuelle. Et si je devais prendre des références qui m'ont beaucoup inspirée dans l'écriture de ce texte, parce que c'est ensuite le texte qui a créé l'ambiance que j'ai imaginée pour le reste, il y a l'ouvrage de Amandine Gay, Une poupée en chocolat. J'ai trouvé dans son écriture quelque chose de, en même temps, honnête, ouvert et léger dans l'écriture, dans le style d'écriture qui permettait de décrypter ou de comprendre des contextes et des concepts assez complexes et assez difficiles, mais de façon plus ou moins fluide. Et il y a une autre série aussi qui m'a inspirée, c'était Anatomie d'un divorce, que j'ai trouvé présenté avec un paradoxe intéressant qui m'a beaucoup parlé aussi. Donc ce sont des genres et des contenus qui n'ont absolument rien à voir, mais qui m'ont renvoyé une énergie et une ambiance générale proche de ce que je voulais plus ou moins présenter. Donc je voulais aller dans un truc de gag assez rapide. On n'entre pas dans les détails parce que c'est pas ça le sujet. On parle du paradoxe, on présente le quotidien et ensuite on essaye de faire que la personne qui tient le roman graphique arrive à la lecture jusqu'à la fin.
Caramba, Dramé et Nad, quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face pour mettre en forme cette bande dessinée ?
Il y a certains choix qui ont dû être faits sur lesquels moi, en tant que dessinateur, je peux donner mon avis, mais je n'ai pas forcément tout le contexte derrière. Et du coup, j'ai dû aussi me mettre un peu en retrait en me disant que ce n'est pas non plus mon récit complètement, mais mon dessin doit être au service de quelque chose. Donc, comment mettre à la fois à sa personnalité en tant que dessinateur dans un récit aussi personnel sans mordre complètement sur ce qu'a voulu dire l'autrice. Donc, j'ai déjà travaillé avec d'autres. Avec des scénaristes, mais j'avoue que c'est la première fois que c'était sur quelque chose d'aussi personnel et intime, donc et aussi avec déjà un parti pris assez fort. Donc comment en tant que dessinateur on se place là-dedans, c'est une série de choix, et aussi de pouvoir oser aussi proposer des choses sans vouloir se censurer soi-même.
Moi, je rejoins ce que Caramba dit. Après, c'est vrai que moi, comme c'était vraiment le tout début, j'ai été beaucoup moins confrontée à ça, forcément. Mais honnêtement, je crois que j'ai pas eu de défi particulier de participer à ce projet. C'était assez fluide dès le départ. Quand on a partagé nos idées avec Karine, qui a eu toute la partie conception, ça venait naturellement. Et puis j'ai l'habitude de pouvoir travailler avec différents types de clientèles, que ce soit scénaristes, personnes particulières, etc. Donc, ce que je trouve que c'est la partie la plus un peu fascinante et la plus motivante, en fait, toute cette partie d'aller-retour où on fait un peu bouillonner nos deux cerveaux et on crée quelque chose, comme dit Caramba, qui est au service, en fait, du récit, mais avec nos identités particulières dedans. Et ouais, donc j'ai pas trouvé qu'il y avait des défis particuliers, c'était juste très motivant.
Aujourd'hui, après que cette BD soit réalisée, éditée, tous les trois, alors Karine Baranac, quel regard portez-vous sur votre expérience après l'avoir mise sur papier ? Et Caramba, Dramé et Nad, quel regard portez-vous sur la maltraitance enfantine et sur sur les services d'aide à l'enfance, et est-ce que vous vous y impliquez de quelque manière ?
Pour moi, plus les jours passent, plus je vois les interactions autour de ce roman graphique, plus je comprends à quel point c'est nécessaire de multiplier des contenus comme celui-là pour aborder le sujet des violences. Là, le 14 janvier, la Cour de cassation s'est prononcée dans un cas précisant bien le non-fondement des violences éducatives. Quelque chose qui était clair depuis longtemps pourtant, mais qui demande encore précision en France. Et ça montre aussi, quand on voit les chiffres, selon l'OMS, dans un rapport conjoint avec l'UNESCO et l'UNICEF, plus d'un enfant plus d'un milliard d'enfants subissent des violences, vivent dans la maltraitance chaque année, des enfants entre 2 et 17 ans, chaque année, un milliard d'enfants. On a à peu près 3 milliards d'enfants dans le monde entier. Donc si un milliard sont dans les violences extrêmes, ça ne veut pas dire que toutes ces violences-là sont seulement des violences intrafamiliales, mais la question du mal-être des enfants dans nos sociétés, elle est réelle. En France, on a, selon la CIVIS, près de 160 000 enfants qui subissent l'inceste, donc des violences sexuelles au sein de la famille. On a un enfant qui meurt, selon le collectif enfantiste et la CIVIS, qui meurt sous les coups de leurs parents tous les 5 jours. Et on n'en arrive pas à la violence physique qui cause la mort du jour au lendemain. Il y a plein de choses qui se passent autour. Donc tous ces éléments montrent à quel point le ressenti que l'on a quand on grandit avec la violence, qui est la honte, la culpabilité, parce qu'on a tendance à le cacher, on a tendance à considérer que c'est nous le problème et qu'on fait partie d'une minorité. Plus je travaillais sur ce sujet-là, plus je recevais des témoignages, plus je me rendais compte que non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Ça tend plutôt vers une sorte de norme que vers l'exception honteuse. Et la question d'adresser le problème à la hauteur de son ampleur se pose parce que les initiatives ne suivent pas. Et comme disait Nadé, pour moi, les thématiques sur lesquelles IEL travaillait déjà, les sujets aussi de la représentation des corps noirs que faisait Karamba dans son travail sur ces thématiques-là, étaient plus ou moins absents. Donc, ça dévoile plus l'ampleur du problème qui semblait moins grave que ça de ma posture d'avant publication que maintenant. Et dans cette même démarche-là, à la suite de cette publication, ou bien en parallèle de la sortie, je me suis inscrite à une formation de médiation familiale parce qu'il y a plein de situations de violence familiale qui s'instaurent parce qu'on n'a pas su communiquer en amont ou parce qu'on n'a pas su identifier quels étaient les leviers de violence. Donc, pour moi, c'était dénoncer, mais aussi réfléchir à comment travailler en amont des violences.
Nous vous rappelons que cette bande dessinée hautement recommandée par l'équipe de Culture Prohibée s'appelle « Survivre à un parent toxique et violent », qu'elle est disponible chez Team Édition et qu'elle est signée Karine Bahanag, Karamba Dramé et Nadé. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone. Une émission animée avec le soutien technique de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup-garou Picard et ses magnifiques chroniques. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Stop the violence, stop the violence, stop the violence.
stop the violence, stop the violence, stop the violence, stop the violence.